Bonjour à tous, je m'appelle Rita et vous écoutez Yalla. Yalla, c'est le podcast qui part à la rencontre de personnalités inspirantes et engagées au Maroc, mais aussi ailleurs, et qui casse les codes pour transformer le monde actuel. Sur Yalla, on vous parle de ce qui les anime au quotidien, mais aussi de leur parcours, leurs réussites et échecs. En bref, toutes ces choses qui ont fait d'eux la personne qu'elles sont aujourd'hui. Pour ce 7e épisode de Yalla, j'ai l'énorme plaisir d'accueillir à mon micro Hugues Renouf. Hugues est le gérant de Mounier et Bouvard, maison de bijouterie et joaillerie familiale créée en 1929, qui lui a été transmise il y a plusieurs années par son grand-père. Hugues est d'origine française, mais il est né et a grandi au Maroc. Et il est encore plus marocain qu'un marocain. Il m'a beaucoup marqué par sa bonté, sa spontanéité et surtout sa passion pour son métier. Il a tenu à consacrer du temps en amont de l'interview pour me faire découvrir les ateliers de la maison et le processus de création de ses pièces. J'ai tenu à inviter Hugues sur mon émission parce que nous avons souvent tendance à croire que les personnes qui héritent de ce genre d'entreprise est facile. Facile car tout est déjà créé et fonctionne à première vue déjà parfaitement bien. Accepter ce lourd héritage n'a au contraire pas été évident pour lui puisqu'il a dû s'imposer et faire ses preuves. Je vais m'arrêter là pour le petit teaser et j'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Yalla, place à l'épisode. Salut Hugues.
Salut Rita.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au podcast.
Écoute, c'est un plaisir de t'accueillir chez Mounier Bouvard.
Merci beaucoup, je suis vraiment ravie d'être là. Alors, première petite question, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites ?
Bien sûr. Alors, je m'appelle Hugues Renouf, j'ai 34 ans, je suis né à Casablanca, donc au Maroc, pays que j'aime plus que tout. Et à part tout ça, je suis joaillier. Et je travaille dans une maison familiale donc, qui a été fondée par mon arrière-grand-père dans les années 20 au Maroc, à Casablanca, qui s'appelle Mounier Bouvard.
Alors du coup, tu es Casablancais de naissance, de cœur.
Absolument.
Est-ce que tu peux du coup nous raconter ton enfance, j'imagine, à Casablanca? Quel type d'enfant, tu étais? Quel trait de caractère? Parle-nous un petit peu de toi, du petit Hugues.
Écoute, le petit Hugues qui est devenu grand. Alors, quand il était petit, le petit Hugues, je pense qu'il aimait beaucoup donc, voyager avec ses parents. Donc, j'ai pu découvrir pas mal de pays et aussi voyager au sein du Maroc. Donc, ça, c'est une première chose. Qu'est-ce que j'aimais d'autre ? C'est sportif. Sport nautique, en particulier. D'ailleurs, je suis toujours passionné de sport nautique aujourd'hui, comme le surf, le wakeboard. Voilà, je trouve qu'on est assez gâtés au Maroc par rapport à ça. Et écoute, pour peut-être faire une filiation avec mon métier d'aujourd'hui donc, qui est bijoutier, c'est que c'est vrai que depuis gamin, j'étais assez manuel. Donc j'aimais bien bricoler, assembler des choses. Ma mère a eu l'intelligence de me mettre des crayons de couleur dans les mains tout jeune, donc j'ai toujours dessiné. Et écoute, de fil en aiguille, affaires familiales, c'était quand même une évidence que je continue dans cette voie.
Et est-ce que tu t'es jamais dit que tu allais faire autre chose ? Ça t'a pas
bien sûr, l'esprit ? Bien sûr, en fait, je me suis posé plein de questions. Je pense comme tout jeune, fin de parcours, lycée. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais fait quelque chose lié aux arts appliqués. Tu vois, ça aurait pu être du graphisme, ça aurait pu, je sais pas, faire de la bande dessinée. Voilà.
En tout cas, ça aurait été dans l'art, dans le dessin.
Après, bon, bien sûr, quand tu as... un outil de travail qui t'est proposé et quel outil, parce que je rappelle que c'est quand même un métier passionnant, on utilise quand même de belles choses comme le travail des métaux, le travail des pierres précieuses, des pierres fines, voilà.
Et du coup, justement, comment cette opportunité a été proposée ? Au bout d'un moment, tu m'as dit, bon, c'était un petit peu une évidence. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton lien avec Mounier et Bouvard ?
Alors, mon arrière-grand-père était un jeune apprenti bijoutier qui était en France. Il a monté un atelier de joaillerie à Lyon. Et je pense qu'il avait le goût de l'aventure. Il avait un souhait, c'était de partir au Brésil. Parce qu'au Brésil, on y trouve pas mal de pierres précieuses. Et à l'époque, les voies maritimes, certaines passaient par l'Afrique du Nord. Donc, il est arrivé au Maroc, un peu par accident, à Casablanca. Et je sais pas, je crois qu'il a trouvé une certaine dynamique à l'époque qui lui a beaucoup plu. Donc, il a décidé de s'y installer. Femme et enfants le rejoignent. Et c'est parti pour l'aventure marocaine. Donc, premier atelier de joaillerie, 1929. Et dans les années 50, donc, son jeune fils, Henri Mounier, qui est mon grand-père, reprend donc à ce moment-là l'affaire de son père. Il reprend l'affaire de son père. Il travaille avec des artisans marocains, des joailliers français qui étaient même venus de l'époque. Donc il y a eu quand même une fusion entre la joaillerie et le bijouterie traditionnelle marocain. C'est un peu l'histoire de la maison Mounier Bouvard, qui est vraiment une histoire contemporaine du Maroc, si je puis dire, avec des savoir-faire ancestraux, que ce soit pour la joaillerie, que ce soit pour le bijou traditionnel marocain. Et aujourd'hui, on surfe toujours sur ces deux vagues, cette double culture qui ressemble aussi, je trouve, quand même, voilà, à ce qu'est le Maroc d'aujourd'hui. Et puis, bah, j'ai fini par arriver. Donc, je suis la troisième génération.
Ok, donc c'est Hugues Mounier, c'est ça, qui était ton arrière-grand-père?
Tout à fait, j'ai hérité aussi de son prénom.
Oui, bah oui.
Voilà.
Ok, super. Alors, du coup, tu t'es dit, je vais reprendre l'affaire de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Et tu t'es dit, donc du coup, tu as suivi, j'imagine, des études qui sont en lien avec, avec la joaillerie, avec la bijouterie.
Tout à fait. Alors, pour devenir bijoutier, bah, c'est simple, c'est comme beaucoup de formations. Il y a des écoles pour ça. Donc, comme ça reste quand même un métier de savoir-faire, j'ai d'abord appris le métier au sein de l'atelier familial à Casablanca.
D'accord.
C'est-à-dire que jeune, pendant les vacances, je traînais dans les ateliers. On me donnait du cuivre ou de l'argent et on me montrait comment fabriquer un anneau, souder deux pièces ensemble. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers pas dans cette aventure.
C'est comme ça que tu as été un peu piqué par la maison.
Et après, c'est simple. La joaillerie donc, elle est présente, très présente en Europe, c'est là d'où elle vient. Donc il y a des écoles en Italie, en France, et en France une école assez prestigieuse. La joaillerie, donc, c'est européen, ça a été, le savoir-faire joaillier vient de l'Europe principalement. Donc des écoles, il y en a en Italie, il y en a en Espagne, il y en a en France, dont celle que j'ai fait qui est à Paris, qui est la Chambre syndicale de la joaillerie de Paris, qui est une école qui apprend aux jeunes le côté donc vraiment manuel de ce métier. C'est-à-dire quand on va dans ce cursus, il faut déjà avoir des bases manuelles, de dessin, un peu comme si on voulait intégrer un peu une école d'archi.
Du coup, c'est sur concours, c'est ça ?
Alors, oui. Okay. Cette école en particulier est sur concours pour la formation continue. Après, en France, on peut aussi déposer des dossiers d'alternance. Ça veut dire que si on trouve un maître qui veut bien vous prendre en alternance, vous pourrez aussi faire une formation d'alternance dans ces écoles-là.
Et donc toi, qu'est-ce que tu as fait ?
Moi, j'ai fait le concours.
Okay.
J'ai eu de la chance de le réussir et j'ai fait la formation continue.
Ok. Très bien. Tu as terminé tes études. Est-ce que tu es resté quand même un petit peu apprendre le métier à l'étranger ou tu es rentré directement au Maroc reprendre la maison ?
Alors, je ne suis pas rentré tout de suite au Maroc. Je suis parti à Londres et j'ai travaillé chez Cartier pendant un an.
D'accord.
Alors, c'était ma première expérience professionnelle, à part certains stages que j'avais fait pendant mes études.
Ouais.
Et donc voilà, j'avais fin d'études, je me débrouillais bien en art appliqué, en dessin, en créa, et ma prof d'art appliqué qui avait travaillé chez Cartier m'a présenté des bonnes personnes et ils m'ont proposé de bosser donc, dans l'atelier de chez Cartier à Londres.
Super.
Donc bien sûr, j'y suis allé en courant.
Ouais, j'imagine.
et là, je me suis retrouvé dans un petit atelier, contrairement à ceux qu'on peut trouver à Paris, avec une petite équipe. Et c'était mieux parce qu'en fait, on faisait pas mal de pièces particulières pour des clients prestigieux. Donc voilà, pendant cette année-là, j'ai beaucoup appris au sein
de
Cartier.
Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, pardon, cette expérience chez Cartier ? Quels sont les skills que t'as appris et que tu as pu apporter du coup à la maison aujourd'hui ?
Alors bien sûr, il y a des choses que je n'avais peut-être pas vues à l'école. Ça veut dire des techniques de dessin... que m'ont montré en fait les dessinateurs qui étaient à l'atelier là-bas. Et après, bien sûr, je pense que j'ai aussi été dans un contexte où là, j'avais j'avais affaire à des vrais gens, en fait, des vraies commandes, de la fabrication de vraies pièces.
Ouais.
On n'est plus dans une simulation. Donc là, au début, c'est vrai que ça fait un peu peur. On se dit, est-ce que ça va marcher, est-ce que... Et petit à petit, on prend le rythme et on peut prendre confiance en soi.
Ouais.
Et voilà, et j'ai appris aussi l'anglais, forcément. Et au bout d'un an, je savais que voilà, qu'il fallait rentrer.
Ouais.
Parce que comme c'est mon grand-père qui était à la tête de cet atelier et je pense qu'il avait besoin que je revienne prendre la relève.
Ouais.
Donc, je suis rentré. Serais bien resté un peu plus longtemps,
ouais.
Mais je suis rentré, mais je ne regrette pas mon choix.
Ouais. Okay.
Voilà, ça m'a permis le temps d'évoluer. Ça fait déjà 10 ans que je suis rentré.
Ouais.
Beaucoup de choses qui ont été faites. Et voilà, je suis assez heureux de ça.
Super. Est-ce que, donc là on va se concentrer du coup sur Mounier et Bouvard et sur toi chez Mounier et Bouvard, est-ce que tu peux alors déjà la première chose, pardon, quelle est la différence entre la bijouterie et la joaillerie? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des petites nuances à...
Alors, c'est pas exactement la même chose, alors je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible.
Ouais.
La bijouterie, c'est le travail du métal, c'est-à-dire que c'est un savoir-faire qui vient mettre plus en valeur le métal. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, des chaînes en or ou en argent, que ce soit des bagues or-argent qui ne vont pas comporter forcément de pierre. Il peut y en avoir, mais on va dire que le métal est plus mis en avant.
D'accord.
C'est pour ça qu'aussi au Maroc, on aime bien dire ça bijouterie traditionnelle marocaine, parce qu'on sublime le travail du métal. On veut l'or est travaillé, ciselé, gravé, ajouré. Voilà. La joaillerie, c'est le contraire. On va venir mettre en avant les pierres. Donc, le métal ne finit par être qu'un support de toutes ces pierres. C'est pour ça que si vous essayez d'imaginer dans votre tête des bijoux, imaginez une pièce de joaillerie sertie de pierres précieuses, de diamants. Est-ce que forcément vous voyez le métal? Non.
Ouais.
Donc je pense que c'est la définition la plus simple.
D'accord. Et Mounier et Bouvard, est-ce que la spécialité c'est plutôt la joaillerie ou la bijouterie?
Alors chez Mounier et Bouvard, la spécialité c'est la bijouterie et la joaillerie.
Ok, donc vous faites les deux?
Absolument. En fait, en général, un bijoutier fait les deux. Hein. C'est pour ça que le terme bijoutier-joaillier est souvent entendu, en fait. Vous entendez souvent bijoutier-joaillier. Parce qu'un bijoutier, donc, il a son savoir de bijoutier qui va lui permettre de faire tout ce qui est pièces en métaux, comme je viens de l'expliquer précédemment. Et aussi de la joaillerie, les solitaires classiques, les rivières de diamants, les bracelets tennis. Voilà.
Okay.
C'est ce genre de belles choses. Et en fait, aussi chez Mounier Bouvard, on va dire que nous, on a la bijouterie-joaillerie et la bijouterie traditionnelle marocaine.
D'accord.
Dans nos skills.
Ouais, ok. Noté. Et alors, est-ce que, du coup, pour parler un petit peu plus de toi, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle?
On fait que parler de moi.
Non. On parlait de Mounier et Bouvard. Toi, qu'est-ce que tu fais chez Mounier et Bouvard? C'est quoi ton rôle spécifiquement dans la maison?
Bien sûr. Alors, mon rôle au sein de Mounier et Bouvard, malheureusement, c'est gérant.
Ouais.
Donc j'ai dû reprendre ce rôle et apprendre tous les rouages de l'entrepreneuriat, de comment fonctionne une entreprise.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'au quotidien, j'ai avec mon associé, car nous sommes deux aujourd'hui chez Mounier Bouvard, donc la suivi, administrative, toutes ces choses qui sont pas drôles.
Ouais. Surtout pour quelqu'un comme toi qui est plutôt artiste dans l'âme.
Voilà, mais ça va, on arrive avec mon associé elle s'occupe plus de tout ce qui est partie direction financière et administrative. Et moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est suivi des boutiques, développement commercial de la marque, de la communication.
Ouais.
Donc, on a un pôle communication au sein de Mounier Bouvard avec une responsable de communication. Donc, community management, création de contenu, prise de photos de bijoux. On a fait tout ça parce qu'on ne trouvait pas de prestataire. Pendant longtemps, on ne trouvait pas de prestataire, même si aujourd'hui, on en a trouvé qui sont très bien. Mais à l'époque, on avait un peu de mal. Et donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Ouais, c'est sûr.
Et à part ça,
bien sûr,
je continue mes travaux d'atelier, mes travaux de création de collection, Après, voilà, le travail d'atelier, disons que c'est constant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, chaque jour, j'ai à gérer les commandes, j'ai à gérer les commandes particulières des clients, des basiques de la, du suivi de production. Après, côté créatif, c'est sûr que je ne me réveille pas le matin et je m'assois et je me dis, ouais, je crée des lignes de bijoux.
Ouais.
En fait,
alors,
tout
du coup,
ça...
justement, ces collections, parce que tu as différentes collections. Enfin, Mounier Bouvard a différentes collections. Est-ce que c'est toi qui les imagines ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Tu fais appel à quelqu'un d'externe pour le faire?
Alors, ces dernières années, la majorité des nouveautés, ce sont moi qui les ai apportées.
D'accord.
D'ailleurs, quand je suis arrivé chez Mounier Bouvard, il n'y avait pas vraiment de collection. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de bijoux,
ouais,
mais pas forcément de lignes ou... voilà, c'est en disant qu'il y avait une désorganisation au niveau de toutes ces pièces en fait qui existaient.
Ouais.
Et quand je suis arrivé, mon intérêt c'était un peu de dissocier les styles déjà dans le bijou traditionnel
donner
marocain.
Un petit peu de cohérence en fait.
Voilà, c'est-à-dire du bijou très ancien au bijou traditionnel moderne où
ouais,
on vient fusionner la joaillerie et le bijou traditionnel. Donc là, depuis donc une dizaine d'années, on a réussi à avoir différentes lignes en ce sens.
Ouais.
Et aussi toutes les nouveautés de création joaillière, c'est-à-dire de la joaillerie ou de la bijouterie, inspiration bien sûr des arts traditionnels marocains. Voilà.
Ok, très bien. Et du coup, pour revenir un petit peu à ton rôle au sein de Mounier Bouvard, est-ce que quand tu as repris la tête de la maison, est-ce que tu avais quelques appréhensions ou c'était... une évidence pour toi? Est-ce que, comment tu as fait pour t'adapter un petit peu en arrivant? Comment tu as fait pour t'imposer, entre guillemets, c'est pas vraiment le mot que je veux utiliser, mais tu vois un petit peu, en tout cas, faire ta place, on va dire.
Bah alors, pour parler franchement, je pense qu'il n'y a rien de plus dur que de reprendre une affaire familiale.
Oui, parce que c'est quand même un héritage qui est assez lourd. Et c'est un très bel héritage, mais qui doit être
c'est
assez très lourd.
C'est très lourd, et je pense que si des personnes m'écoutent là, et aussi repris des business avec la famille, forcément, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on rentre déjà dans une sphère qui ne vous appartient pas, où il y a déjà des personnes qui sont déjà présentes depuis longtemps, qui travaillent, qui ont une vision, et vous arrivez avec une vision nouvelle, jeune... Donc, il faut faire sa place.
Ouais.
Donc, si on est trop jeune, je pense que ça casse parce qu'on a des émotions qui parlent. Mais si on rentre avec un peu de maturité, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'abord prendre un peu la vague qui est déjà dans, on va dire, dans l'entreprise, prendre son temps d'observer et en cheminant doucement, s'imposer. Et en fait, c'est juste le travail... Et la qualité de son travail avec le temps.
Oui, qui parle pour toi, en fait.
Voilà, qui finit par être une évidence. Donc, bien sûr, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on a beaucoup de pression sur les épaules de la part des personnes qui nous ont légué. Parce que eux, ils veulent... Vous n'avez pas le droit à l'erreur, ils veulent vous donner l'exemple constamment. Donc, c'est un sacrifice. Il faut se lever... tôt le matin, finir tard le soir.
Ouais.
Mais c'est ce que j'ai fait et heureusement, j'ai tenu parce que c'est un métier qui est passionnant et que j'adore. Et la maison a beaucoup changé. Aujourd'hui, on a une vraie image de marque au Maroc, je pense. On l'avait déjà avant, mais bon, disons dans un cercle plus restreint. Maintenant, on va dire que les réseaux sociaux ont permis de mettre à jour tout ce qu'on pouvait faire et on continue de le faire. Donc pour revenir aussi aux créations, il y a quand même aujourd'hui des nouveautés qui sont sorties. On n'est pas forcément que dans de la joaillerie classique, lourde, chère, ou du bijou traditionnel belge aussi inaccessible. Même si aujourd'hui on reste quand même positionné comme une maison de bijouterie joaillerie, j'ai aussi des produits d'appel très intéressants, que ce soit en bijouterie traditionnelle
ou en joaillerie. Et ces produits d'appel-là, c'est toi qui les a proposés, du coup ça n'existait pas avant.
C'était beaucoup
une clientèle un peu plus restreinte, j'imagine.
Exactement.
Exactement. Ouais, ok. Alors, sur un aspect un peu plus managérial, parce que tu es gérant, donc tu gères des personnes, est-ce que tu peux nous dire déjà la taille de ton équipe? Donc, tu me disais tout à l'heure que tu avais 50 personnes, c'est ça, chez Mounier Bouvard?
Absolument. On est une jolie petite PME.
Ouais.
Donc, une trentaine d'artisans. répertorié en bijoutier, joaillier, sertisseur, graveur, polisseur, dessinateur, 3D, chef d'atelier. Ça, c'est pour la partie donc, prod. Ouais. Et pour la partie, une dizaine au niveau administratif, une dizaine à travers les, voilà, la partie commerciale, boutique.
Ouais, donc ça fait quand même pas mal de monde à gérer. C'est quoi, en tant que manager, tes valeurs ? C'est quoi les... Qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans ta relation avec, avec tes employés ? Qu'est-ce qui fait que tu as une bonne relation avec eux ? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde.
Alors, le management aussi, c'est encore quelque chose qui est hyper, hyper compliqué.
Ouais.
Alors, j'ai jamais été, on va dire, un manager inné. C'est-à-dire ouais. Quand je suis rentré chez Mounier Bouvard, j'ai dû apprendre à manager. J'ai fait des erreurs et tout ce que j'ai pu apprendre, c'est que, comme je te dis tout à l'heure, il faut s'imposer dans une boîte. Donc je pense que déjà, si on montre l'exemple, on finit par, par avoir la confiance en fait, des personnes qui nous entourent.
Ouais.
Et après, c'est sûr que les valeurs que je partage aussi, c'est que bien entendu, il ne faut jamais oublier que une entreprise est portée par le travail ouais. de toutes les personnes qui s'y trouvent.
Ouais.
Et aujourd'hui, j'ai de la chance, c'est parce que je pense que m'entendre avec la majorité de mes artisans, je pense que j'ai, je suis très présent à l'atelier, ils m'ont vu évoluer jeune déjà,
ouais.
donc ils savent que je ne débarque pas du ciel, en fait. J'ai appris le même métier qu'eux, on parle le même langage.
Ouais.
Et sinon, pour les, on va dire les autres personnes qui travaillent, que ça soit au niveau de la, voilà, de tous les autres secteurs de la maison, forcément, je pense qu'on essaie de rester comme une famille en fait, peut-être, je sais pas. Après, je pense que si les gens restent veulent décider de rester,
ouais.
c'est que finalement ils y sont bien et tant mieux.
Yes. Ok, super. Est-ce que tu as déjà eu des challenges avec, avec Mounier et Bouvard ? Est-ce que tu as eu un moment de doute ou des challenges à surmonter ?
Alors déjà, je vais parler d'un gros challenge. C'est 2 années de foudroyante de pandémie.
Ouais, ouais, ouais.
Donc c'est un arrêt total de l'activité pendant plusieurs mois.
Ouais.
Heureusement qu'on était en bonne santé, mais bien sûr ça a été un challenge, c'est un gros challenge de gestion de crise, de sacrifice des gérants et gérer la reprise.
Ouais.
Donc ça c'était un bon challenge. Après des challenges on a tous les jours. C'est une maison qui demande à évoluer, à s'agrandir, à se développer dans plein de domaines. Donc, je pense que tous les jours, il y a des challenges.
Ok. Et du coup, tu parlais du Covid. Est-ce que tu as ressenti un avant-après par rapport à ta clientèle ou pas forcément ? Dans les habitudes de consommation, dans...
Alors, nous, on a de la chance. Pourquoi ? On a de la chance dans le sens où on ne faisait pas partie de ces industries qui étaient directement... On va dire, on ne faisait pas partie de ces industries qui étaient, on va dire, comme l'hôtellerie, les métiers de la communication,
ouais, ouais, ouais.
Pas mal d'artisans aussi, qui vivent du tourisme. Voilà. Nous, après Covid, y a, je pense, une embellie qui se fait de la part des ménages. Moi je vends aussi beaucoup d'articles de mariage. Y a des mariages ont continué,
ouais.
même après la pandémie. Il n'y avait plus de soirées, c'est sûr, il n'y avait plus de fêtes, mais les actes existent. Donc les bijoux qui, voilà, les bijoux de mariage ont continué à se faire, donc ça a été super important. Je pense qu'il y a aussi le désir, je pense que c'était de consommer marocain.
Ouais.
Nous, bah, on répète encore, on est un atelier marocain. Ouais. Donc, je pense que voilà, un beau soutien.
Mais ça, j'ai l'impression qu'en fait, consommer marocain, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé avec le Covid, comme toutes les frontières étaient fermées, on n'avait pas forcément le choix. Il y a de plus en plus de petites marques ou ce genre de choses qui se sont développées, et les Marocains, j'ai l'impression qu'ils veulent beaucoup plus acheter marocain qu'avant le Covid, en tout cas.
Mais ils ont raison, qui continuent. mais c'est vrai que oui. En tout cas, ces deux dernières années après Covid, oui.
Ouais.
Après, ça va peut-être changer. Hein. On n'a pas que envie de manger du marocain. Hein.
Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta clientèle chez Mounier et Bouvard ? Est-ce que ce sont des jeunes, des moins jeunes ? Est-ce que tu vois un switch un petit peu dans leur mentalité entre le moment où toi, tu es arrivé et aujourd'hui, parce que tu as fait beaucoup de choses depuis ? Est-ce que tu vois des changements ?
Alors, bien sûr. Donc, la clientèle aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a tous les âges.
Ouais.
On a la génération de mon grand-père, on a les enfants de cette génération-là, qui sont nos parents, et aujourd'hui, on a leurs enfants, qui sont nous, en fait. Ouais. Donc, il y a plusieurs générations, en fait. Et forcément, les jeunes, il y en avait moins, il y a 10 ans, peut-être. Mais depuis que, justement, aujourd'hui, on est ultra présent sur les supports qu'utilisent les jeunes, on les touche. Donc, je peux dire que oui, on touche toutes les générations. Et justement, on doit s'adapter en termes d'articles de bijouterie, de pouvoir satisfaire chaque bourse. Un jeune qui démarre dans la vie, c'est pas un senior de 50 ans qui a réussi sa vie.
Ouais.
Mais peut-être que ce jeune... de 30 ans aujourd'hui qui démarre sa vie, ça sera un senior et en général c'est ça, ils nous suivent pendant, voilà,
ils sont assez fidèles,
voilà.
Ok, super. Alors il y avait une question que je voulais te poser. Ici au Maroc, peut-être ailleurs aussi, je sais pas, mais on a une culture assez forte des diamants. On aime beaucoup les diamants, on aime beaucoup les gros diamants, les diamants avec beaucoup de carats, c'est des diamants, c'est ça, les transparents là. C'est pas des diamants, c'est ça?
Oui,
c'est
pas toujours, mais oui, en général, c'est des diamants.
Ouais, c'est des diamants.
Des fois, ça peut être défaut.
C'est?
Ça peut être défaut aussi.
Ouais, mais... mais je sais en tout cas qu'ici, on aime beaucoup les gros diamants. Est-ce que selon toi, c'est un bon investissement ou pas? D'investir dans une bague avec des gros diamants comme ça. Parce que j'avais lu... en fait, j'avais vu une espèce de vidéo sur De Beers. Qui disait qu'en réalité, en fait, comme De Beers avait un peu le monopole, enfin, en tout cas, De Beers et d'autres... d'autres maisons avaient un peu le monopole sur les mines de diamants. C'est ce qui faisait monter un petit peu le prix. Donc, est-ce que réellement, c'est un bon investissement ou pas ? Ou est-ce que... Toi, qu'est-ce que tu conseilles d'acheter dans la... Enfin, comme bijoux ou plutôt dans la joaillerie, en général ?
Alors, tu me poses la question si est-ce que les diamants sont de bons investissements ?
Ouais.
Alors, tout dépend des diamants.
Ouais.
Et tout dépend de la certification de la pierre que l'on achète.
D'accord.
Parce que aujourd'hui... Pour garantir la qualité d'une pierre, on a besoin d'un certificat.
Ouais.
Par exemple, tu vas acheter une pierre aujourd'hui, un diamant qui est de tel critère de qualité, tu vas l'acheter avec son certificat, donc c'est une preuve que ta pierre est bien de cette qualité. Dix ans après, tu vas la revendre, tu as ton certificat.
Ouais.
Voilà, on ne peut pas te dire non, ce n'est pas cette qualité. Voilà. Donc oui, forcément, tout ce qui sera certifié, si tu achètes une pierre aujourd'hui, peut-être qu'elle en vaudra beaucoup plus dans 10 ans.
D'accord.
La pierre, je parle. Après, c'est pas pour, on va dire, toutes les tailles de pierre, toutes les petits diamants qu'on pourrait utiliser qui sont pas certifiables parce qu'ils sont trop petits.
Ouais.
Là, non. Okay. Mais dès qu'on commence à dépasser 0,30, 0,50 carats, que ça soit pour le diamant ou que ça soit pour d'autres pierres de couleur comme le rubis, le saphir, l'émeraude, à partir d'une certaine taille, il vaut mieux avoir un certificat.
Ok.
Voilà, je pense que c'est voilà. Donc oui, okay. Après, si je devais parler d'investissement, le meilleur investissement, c'est l'or. Qu'on a trouvé de l'or sur cette terre,
c'est
le meilleur investissement parce que l'or, c'est de l'or.
Ouais.
Voilà, il suffit juste de le gratter ou d'un peu d'acide pour savoir si c'est de l'or. Où que tu sois dans le monde, tu veux échanger du cash contre de l'or, tu pourras l'échanger.
Ouais. Ok, très bien. Alors, on va switcher un peu de sujet. On va arrêter de parler de Mounier et Bouvard. Alors, du coup, en parallèle de ton métier de bijoutier joaillier, tu es un grand aficionado de surf. La bijouterie, elle a un côté un peu plus formel. Enfin, la bijouterie slash joaillerie a un côté un peu plus formel. Et le surf, un côté un petit peu plus libre. Pour moi, ce qui lie un petit peu les deux, le surf et la bijouterie, c'est tout cet aspect un petit peu naturel. Parce que l'or, les diamants, etc. viennent de la nature, viennent de la terre. Le surf, t'es plutôt sur la mer. Est-ce que, justement, tes parents ou ta famille t'a inculqué cet amour pour la nature ou pas? Ou c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, est-ce que c'est inné en toi ou c'est quelque chose que t'as découvert au fur et à mesure?
C'est sûr que, oui, je trouve que c'est drôle de comparer les deux. C'est le côté très formé de la bijouterie, très carré.
Ouais.
Peut-être que, voilà, c'est aussi... quand on sort justement de ce cadre, on a besoin de choses qui n'est pas forcément... qui n'est pas de règles.
Ouais.
C'est sûr que la nature, ça n'a pas de règles. Après, pour revenir à cette passion, peut-être que c'est grâce à mon enfance ou le mode de vie de mes parents qui a fait qu'aujourd'hui... j'aime bien ça.
Ouais.
Ça dépend des caractères de chacun. Ce qui est sûr, c'est que oui, j'aime ce que la vie nous propose, bien entendu. Donc j'en profite à ce niveau-là, et surtout au Maroc.
Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as un spot préféré justement que tu pourrais partager avec nous
Comme je suis Casablancais, je surfe autour de Casablanca.
Ouais.
Donc Darbouaza, Hendjeb. Je peux aller jusqu'à Bouznika. Mais après, on a 2000 km de côte, donc il y a plein de spots au Maroc. Donc, je boule pas mal en ce sens.
Ok. Du coup, pour surfer, tu te réveilles généralement assez tôt, non? Parce que je crois que les vagues sont plus intéressantes tôt le matin, c'est ça? Ou pas forcément?
Alors, en fait, le surf, c'est très aléatoire. Mais oui, le matin, en général, il y a moins de vent.
Ouais.
Et en fait, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent pour les vagues, parce que sinon, les vagues se ramollissent.
Okay.
Voilà. Donc, oui, mais j'aime bien y aller tôt si les conditions le permettent. Parce que ça dépend aussi de la marée, de la taille de la houle, qu'est-ce qui va fonctionner à tel moment. Mais en général, oui, c'est le matin. Ça m'arrive de me lever très tôt, même avant d'aller bosser, d'aller surfer, d'arriver un peu salé au bureau.
Ouais. Et comment t'arrives du coup à te lever aussitôt? C'est quoi ton secret pour ceux qui se lèvent tard?
Le secret, c'est de se coucher tôt.
Ouais.
Et aussi, la motivation, elle vient de la satisfaction qu'on a après une séance de sport très agréable. On ne regrette jamais.
Yes, ok. Alors, on arrive du coup à la fin de l'interview.
Ah non.
J'ai trois petites questions encore à te poser. La première, est-ce qu'il y a un livre qui t'a déjà marqué parce que je sais que tu es pas mal artiste, tu écoutes beaucoup de musique, je crois que tu lis aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, que ce soit de la musique, un artiste, un livre que tu voudrais partager avec nous?
Écoute, j'ai pas forcément un livre en particulier ou une musique ou un artiste.
Ouais.
J'en ai plein en fait, des gens qui m'ont marqué. Je pourrais pas vraiment répondre à cette question. Mais oui, forcément, il y a des influences extérieures, qu'elles soient littéraires, qu'elles soient musicales, qu'elles soient théâtrales, tout ce que tu veux culturellement.
Ou
cinéma, j'en sais rien. Quel était le sens de ta question en fait, Rita?
Rien, c'était est-ce que tu aurais, je sais pas, peut-être un livre qui t'a marqué, qui a changé peut-être éventuellement ta façon de voir les choses ou de penser? C'était plus dans ce sens-là, en fait.
Alors, je peux parler peut-être de quelque chose. Après mes études, j'ai fait une formation avec une dame qui m'a coaché, on va dire, un peu au niveau personnel. Et je pense que c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie en termes de voilà, on entend coaching, on se dit tout de suite développement personnel. Mais en fait, c'était surtout une sorte de travail de psychologie sur nous-mêmes, sur se connaître soi-même et justement pour essayer de mieux connaître autrui par quelques leviers en fait, on va dire de lecture personnelle pour avoir un peu plus d'intelligence émotionnelle avec les gens. Et je pense que oui, ça a vraiment... J'ai eu un cap entre l'avant et après avec cette dame. Donc c'est...
Donc tu recommanderais éventuellement à des personnes de...
Peut-être pour mieux
communiquer. De se faire coacher ou en tout cas mieux se connaître pour éventuellement mieux communiquer
Absolument, c'est tout est une question de communication.
Ok.
Et pas de manipulation.
Ouais, bien sûr. Ok. Est-ce que t'as un motto dans la vie?
Ah oui, j'ai une moto 300. écoute, le plus important, c'est pas se prendre la tête.
Ouais.
C'est dans tous les domaines. Mm. Que ça soit le boulot, que ça soit la vie personnelle. Je pense que le... voilà.
Ouais.
Qu'on soit pauvre ou riche, malade, en bonne santé,
ouais.
Faut rester tranquille.
Ouais.
Tant que ça devient trop lourd, faut s'échapper.
Et du coup, tu m'as fait penser à une question que j'aimerais bien te poser. Est-ce que du coup, tu arrives à gérer un peu ta... Parce que tu me disais que ton métier était quand même assez prenant, surtout au début. Est-ce que tu arrives à gérer un petit peu ta vie pro et ta vie perso? Est-ce que tu arrives à laisser un petit peu d'espace à ta vie perso?
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Je travaille pas jour et nuit.
Ouais.
J'ai des horaires de travail qui varient, mais c'est vrai que des fois, ça, en semaine, oui, c'est bien rempli.
Ouais.
Mais heureusement, reste du temps... après le travail, que ce soit en rentrant chez soi ou en faisant n'importe quoi d'autre, où on va se changer les idées. Et on a la chance aussi de pouvoir s'échapper pendant les week-ends aussi,
ouais.
Si on peut, même pour pas aller loin, hein, mais déjà on peut se faire un vide complet dans un rayon de 100 km de Casablanca, voire moins.
Est-ce qu'il y a une personne que tu trouves inspirante au Maroc?
Écoute, un personnage inspirant, je sais pas. Alors, j'arrive pas à en trouver un particulier, ouais. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a pas mal d'artistes, de musiciens que j'aime beaucoup, qui se battent un peu pour certaines libertés. J'aime bien le mouvement 490. Alors, le mouvement 490, c'est un collectif de défense des droits. Des droits. Individuel au Maroc.
Ouais.
Après, voilà, il y a tout. Je pense que je m'inspire des acteurs marocains qui vont à terme faire changer, évoluer certaines mœurs, je pense.
Comme qui, par exemple? Tu penses à quelqu'un en particulier ou non?
Pas quelqu'un en particulier, parce que je ne vais pas nommer.
Ouais.
Mais c'est, disons. Moi, je souhaite vivre dans un Maroc moderne,
ouais.
Avec ses traditions, avec sa religion, mais disons plus moderne, peut-être. Donc,
un peu comme en Tunisie.
Peut-être. Exactement.
Ouais.
Et puis, si je devais parler d'un artiste, là, comme ça, qui me vient en tête, qui m'inspire beaucoup, c'est un artiste qui vient de Marrakech, je crois, ou à côté, qui s'appelle Smaïl Zaïdi, et qui a, pendant le Covid, pendant le confinement, pris en photo sa famille, sous forme artistique.
D'accord.
Et puis, je trouve que c'est assez bouleversant comme vision. Donc, il s'appelle Smaïl Zaïdi, pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais il tient à être connu, et il va être connu.
Ok. Super. Bah écoute, merci beaucoup, Hugues. C'était ma dernière question.
Bah merci à toi, chère Rita. C'est un plaisir et tu reviens quand tu veux.
Merci beaucoup, c'est hyper gentil. Allez, à bientôt.
Ciao.
Salut. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Par ailleurs, si vous souhaitez me faire un feedback ou me proposer un invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page Instagram ou LinkedIn de Yalla. À très vite pour un prochain épisode.